Cécile et Rétro, un coup d'œil sur l'histoire du télévisuel en Suisse.
On m'appelle la télé, la montreuse à tout va, avant de faire le trottoir.
Révolution numérique, tournant digital, rupture technologique. Autant d'expressions utilisées pour expliquer la crise actuelle que traverse la presse. Une crise que l'on qualifie volontiers d'inédite. Eh bien, dans cet épisode de TV Rétro, nous proposons de l'inscrire dans une perspective historique. Les éditeurs de presse font-ils face à des mutations sans aucun précédent? Sont-ils, comme le laissent entendre certains commentateurs, si réticents au changement, si peu enclins à innover? Pour entamer notre réflexion, écoutons l'éditeur du Feu quotidien Genevois La Suisse, Jean-Claude Nicole. En février 1970, il était l'invité du fameux Club 44 de la Chaux-de-Fonds pour une conférence intitulée « La presse en marche vers l'an 2000 ».
Et il faut être bien conscient, tout à la fois, des chances incontestables qu'a le journal quotidien traditionnel, de survivre demain, tout à la fois de l'importance des adaptations par lesquelles il devra passer. À la limite d'ailleurs, ces adaptations prendront la forme d'une révolution. Et cette révolution, elle sera à la fois de nature technique et à la fois de nature commerciale. D'un point de vue technique, le journal sera appelé à utiliser des matériels, des méthodes toujours plus évoluées. Toutes ces méthodes, d'ailleurs, se caractérisant par une chose, c'est l'intervention massive de l'informatique, de l'électronique, de l'ordinateur.
Durant cette conférence, Jean-Claude Nicole imagine ce que sera la presse 30 ans plus tard, à l'orée du 21e siècle. Il prévoit l'accroissement des logiques commerciales, l'impression possible de journaux en plastique ou diffusés sur écran, l'augmentation des échanges d'articles entre organes de presse, ou mentionne encore l'éventualité d'une montre radio-bracelet. Certaines de ces idées prêtent à sourire, d'autres font écho à notre paysage médiatique contemporain. En témoigne l'extrait que nous venons d'entendre, Jean-Claude Nicole comprend bien l'importance que revêtira l'ordinateur dans le futur. Mais la question pour l'historien et l'historienne est moins de juger de la pertinence de ces réflexions que d'en constater l'existence. L'éditeur de La Suisse réfléchit aux changements de sa profession et tâche de les anticiper. Voilà ce que nous dit cette conférence. D'ailleurs, les années 1970 et 1980 sont une période de mutation importante pour le monde des médias. L'historien de la presse suisse Alain Clavien nous en dit un peu plus.
Le gros changement technologique dans le processus d'impression, ça arrive dans les années 70 avec le passage du plan Loffet et puis le passage progressif à la mise en page assistée par ordinateur. Alors ça n'a pas nécessairement une grande influence sur le contenu même du journal, ça a une influence sur la mise en page. Et puis surtout, ça a une influence économique, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, il y a des investissements importants pour renouveler les machines. Et ça va entraîner une progressive concentration des entreprises de presse, mais disons que les conséquences, elles sont plus économiques que sur le contenu.
Si l'offset bouleverse les techniques d'impression et engendre une concentration de la presse à partir des années 70, la décennie 80 ouvre quant à elle une période d'expérimentation. Les éditeurs helvétiques investissent ce qu'on désigne déjà de l'expression « nouveau média » qui devient très à la mode à cette époque. Elle désigne alors l'émergence de la télématique, les radios locales et la télévision par câble ou par satellite. Pour illustrer la conscience du milieu de la presse des défis auxquels elle doit faire face, je vous propose un extrait d'un communiqué de l'Association suisse des éditeurs de journaux d'avril 1980.
Le développement considérable des techniques de transmission de données et de diffusion des informations aura une influence de caractère économique et politique considérable sur la presse suisse.
Le programme d'activité de l'association prévoit alors
qu'elle se tourne résolument vers l'avenir et qu'elle accorde la priorité à son action dans le domaine des nouveaux moyens et des nouvelles techniques d'information.
Et ces injonctions sont prises au mot par de nombreux éditeurs, qui participent par exemple aux premiers essais du télétexte et du vidéotexte en 1981 et 1983. Alain Clavien, sur ces années 80.
Alors après, dans les années 80, ce qui se passe, c'est qu'on en est au fond aux premiers essais de ce qu'on pourrait appeler des nouveaux médias. On est intéressé par la vidéo, par le télétexte, on est intéressé aussi à la radio. Et là, il y a un certain nombre de groupes qui vont s'essayer un peu à ces nouveaux médias. On pourrait citer la création de Radio L, par exemple, par Eddy Press, ou etc. Donc Là, c'est une période un peu d'essai pour certains groupes. Et puis, les années 80, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la création de deux grands groupes concurrents en Suisse romande, donc Eddie Press d'un côté, et puis Sonore, enfin qui devient Sicom à Genève de l'autre côté. Eddie Press, donc c'est La Munière, Sicom, c'est Nicole. Et puis, ces deux grands groupes, en fait, ils disposent de quelques journaux, mais ils vont essayer de diversifier, en fait, leurs activités. Et ça, c'est un élément qui est intéressant dans les années 80, qu'il n'y avait pas tellement auparavant. Enfin, cette idée de diversifier les activités des éditeurs.
Jean-Claude Nicole incarne particulièrement bien la figure de l'éditeur de presse qui embrasse franchement cette politique de diversification. Font partie de ses innombrables projets cette société dédiée au multimédia, Sicom, mentionnée par Alain Clavien, la création d'une radio commerciale, Radio Mont-Blanc, et même une télévision par satellite, appelée Telsat. En mai 1980, l'éditeur était invité à la télévision suisse romande pour présenter ce projet. Le journaliste Jacques Pillet lui demande pourquoi un homme de presse se lance dans une telle aventure. Voici sa réponse.
Vous trouvez étonnant, à l'autre terme, que des journaux s'intéressent à la télévision par satellite. Effectivement, cela peut surprendre, il faut donc une explication. Très franchement, pendant des années, les journaux ont vu dans les autres moyens d'information des concurrents. Lorsque la radio est née, les journaux se sont opposés au développement de la radio. Lorsque la télévision est née, les journaux se sont opposés au développement de la télévision. Aujourd'hui, notre conviction a fortement évolué. Nous pensons que les moyens d'information sont en fait les uns par rapport aux autres, complémentaires, chacun à sa vocation. Et nous avons considéré que si dans le passé, nous étions restés à l'écart du développement des autres moyens d'information, dorénavant, nous devions également nous intéresser à eux. C'est dans cet esprit que lorsque s'est présentée la possibilité d'avoir une participation au satellite suisse de télévision, nous avons répondu oui.
Pour résumer, la presse n'a pas attendu le numérique pour intégrer de nouvelles techniques et se saisir de nouveaux outils ou de nouveaux médias. Par contre, ces initiatives ne sont pas toujours couronnées de succès. La télévision satellite de Jean-Claude Nicole ne verra par exemple jamais le jour. Mais en fait, les raisons de cet échec sont plus politiques que techniques. Le Conseil fédéral refuse d'octroyer une concession car il manque un cadre juridique pour cette nouvelle technologie spatiale. Et la SSR, de son côté, défend férocement sa place dominante sur l'audiovisuel suisse. Le contexte politique est aussi particulier. La SSR bénéficie encore d'un monopole de services publics qui tombera en 84. La télévision satellite de Nicole prévoit d'être franchement commerciale et internationale et de se financer exclusivement par la publicité. Sa nature tranche peut-être trop franchement avec l'idée d'un service public national que doit remplir la télévision selon les autorités de l'époque. En plus, l'existence même de cette télévision privée abolirait de fait le monopole de la SSR. Après 4 années de combat, le projet tombe à l'eau. Les éditeurs de presse innovent donc, mais connaissent aussi des échecs. Comme c'est le cas avec l'arrivée du numérique, comme l'explique Alain Clavien.
Par rapport à cette tentation numérique, il y a eu un peu précipitation. Bon, c'est facile de le dire avec du recul, mais il est vrai que plusieurs éditeurs ont cru que face au recul de leur lectorat, une solution, ça pourrait être de basculer leur contenu sur Internet. Ils avaient imaginé, au fond, que la publicité suivrait puis qu'elle financerait leur page. Donc, ils avaient basculé leur contenu gratuitement sur Internet. Ils espéraient aussi, par ailleurs, accrocher l'attention et puis peut-être fidéliser des internautes dont ils espéraient que par la suite, ils allaient s'abonner à la version imprimée. Et puis ça, c'est un calcul qui s'est révélé complètement erroné, parce que d'une part, la publicité, elle n'est pas au rendez-vous. Et puis d'autre part, pourquoi les internautes s'abonneraient-ils au journal imprimé s'ils peuvent le lire gratuitement en ligne? Et ça, il faudra du temps, au fond, aux éditeurs pour admettre qu'ils se sont fourvoyés. Il y a une déclaration qu'on cite toujours de Marc Valder, qui est alors directeur de Ringier, qui reconnaît publiquement que le fait d'offrir gratuitement des contenus en fait sur Internet, ça a été une erreur historique.
Mais les changements ne sont pas seulement technologiques. Le professeur à l'université de Fribourg parle aussi d'un changement de mentalité.
Il y a d'autres choses aussi qui jouent. Je pense qu'il y a aussi un changement de mentalité au sein des élites économiques à la tête des grands groupes de presse dans les années 90. Ces grands groupes de presse qui se sont transformés en groupes médiatiques, qui ont ajouté donc de nombreuses autres activités à celles d'éditeurs de journal, ce qui fait que le journal lui-même, ce n'est plus l'élément principal pour certains éditeurs. Et puis là, on a des grands groupes qui sont acquis au capitalisme actionnarial, qui veut faire de l'argent assez rapidement. et souvent avec des exigences de rendement qui sont énormes. Du côté de Tamedia, à un moment donné, vers 2009-2010, lorsqu'ils ont repris Edipresse, en fait, les déclarations de Martin Kahl estimaient que voilà, l'objectif, c'était 15 à 20% de rendement. Donc, c'est aussi des choses qui ont joué, parce que pour avoir de tels rendements, ben, évidemment, il a fallu diminuer les coûts, puis diminuer les coûts, ça veut dire diminuer les équipes de journalistes, notamment. Donc ça, c'est aussi un élément important, ce changement de mentalité. On avait avant des éditeurs qui étaient quand même très centrés sur les journaux, avec peut-être une conscience de la dimension du rôle social, politique de la presse. Et puis là, on a affaire dans certaines grandes boîtes à des dirigeants dont au fond, l'intérêt principal, c'est de gagner de l'argent.
Conséquence de cette course à l'argent, des rédacteurs et des rédactrices sont licenciés et des journaux disparaissent. On se souvient de la grève de l'ATS en février 2018 ou de la fin de l'Hebdo en janvier 2017. Pourtant, pendant ce temps-là, des mensuels comme Le Monde Diplomatique voient leur nombre d'abonnés augmenter. Si ça marche, est-ce qu'on ne reviendrait pas vers un contenu de qualité ?
Mais je me demande si on n'est effectivement pas en train de revenir un peu en arrière. C'est-à-dire qu'une partie du lectorat est en train de se rendre compte que s'informer sur Internet, ok, c'est bien, mais le travail du journaliste, c'était un vrai travail. Et que, notamment, ce travail consiste à trier l'information, à retenir l'information qui est sûre, à la croiser, etc. Et que ça, c'est des choses... Ben, quand on va sur Internet, c'est pratiquement au lecteur de faire ce job-là, puis il n'est pas équipé pour ça. Donc c'est possible que maintenant, une partie du public se rende compte que ça vaut peut-être la peine de payer un abonnement pour avoir une information qui est une information intéressante.
L'avenir est peut-être au tout numérique, mais il semble que le métier d'éditeur et de journaliste garde bel et bien de leur utilité. Pour poursuivre la réflexion plus loin et clore cet épisode de Rétro TV, je laisse la parole à Jean-Claude Nicole. Le Genevois conclut sa conférence au Club 44 en évoquant justement les qualités nécessaires au métier du journaliste de l'avenir.
Il faudra que le journaliste de demain soit d'un niveau qualitatif supérieur dans la mesure où, inséré dans une organisation de plus en plus technique, il devra conserver néanmoins sa qualité d'homme de plume, sa qualité d'homme de réflexion. Il devra conserver malgré tout son individualisme, sa personnalité propre. Eh bien, nous le voyons immédiatement. Se fixer un tel objectif impliquera une longue évolution. Et notre conclusion, elle sera que pour réaliser cette évolution, il faut que notre presse écrite, chez nous en Suisse romande, s'attelle à la tâche dès maintenant. Car, je crois que nous en sommes tous conscients, messieurs, 30 ans, c'est vite passé. Je vous remercie de votre attention.
À tout bas, avant de faire le trottoir, je me le caille sur les toits. Je suis pas grand chose de bien, c'est sûr, mais ce qui me gêne, c'est leurs jeux interlopes qui me luxent les antennes.